Bonsoir. Merci d'être venus aussi nombreuses et nombreux, vraiment très très nombreuses et nombreux, c'est impressionnant. Pour cette discussion, rencontre, conférence, on oscille un peu sur comment la dénommer, mais on a un PowerPoint, donc on peut dire que c'est une conférence, je pense. Et qui est prénommée « Dernière frontière » avec Catherine Poulain. Tu es ou as été ouvrière viticole dans le Médoc, ramasseuse de pommes au Québec, bergère dans les Alpes de Haute-Provence, barmaid à Hong Kong, beaucoup d'autres choses, en bref, une runaway depuis tes 20 ans. Mais surtout, marin-pêcheuse en Alaska pendant 10 ans, une expérience dont est tiré un livre, Le Grand Marin, paru en 2016 et récompensé de nombreux prix, et qui va nous servir, qui est le point central de cette rencontre. Ce roman est porté par une narratrice, Lily, le moineau ou la green, comme l'appellent les pêcheurs qu'elle côtoie, et porte surtout sur les premiers mois de son arrivée au port de Kodiak et son embarquement sur le Rebel. Lily qui raconte son urgence d'aller pêcher, l'urgence d'aller sur la mer vers la dernière frontière, l'urgence de ne pas revenir aussi à Manosque-les-Couteaux en France, et l'urgence surtout de rester libre, toujours. Et pour vous poser un peu le décor avant les premières questions, on voulait vous proposer que tu lises juste le début de ce récit.
Bonjour à toutes et tous. Merci d'être venus. Il faudrait toujours être en route pour l'Alaska. Mais y arriver à quoi bon? J'ai fait mon sac, c'est la nuit. Un jour, je quitte Manosque-les-Plateaux, Manosque-les-Couteaux. C'est février, les bars ne désemplissent pas. La fumée et la bière, je pars le bout du monde, sur la Grande Bleue, vers le cristal et le péril, je pars. Je ne veux plus mourir d'ennui, de bière, d'une balle perdue, de malheur. Je pars. Tu es folle. Ils se moquent. Ils se moquent toujours. Toute seule sur des bateaux avec des hordes d'hommes, tu es folle. Ils rient. Riez, riez, buvez, défoncez-vous. Mourrez si vous voulez. Pas moi. Je pars pêcher en Alaska. Salut. Je suis partie.
Alors, pour commencer, dernière frontière, the last frontier, c'est une expression qui revient plusieurs fois dans le récit pour parler de l'Alaska. Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce qu'on la nomme comme ça par les gens là-bas?
Alors, pendant très longtemps, j'ai aimé le côté romanesque de la dernière frontière, la frontière de toutes les limites, de tous les... et derrière le recommencement de tout. Et puis, il y a quelques jours, je suis quand même allée voir sur Wikipédia. Et en fait, la dernière frontière, c'était, on appelait aux États, en américain, the frontier, c'était la zone transitoire pour les pionniers et les explorateurs entre ce qui était déjà connu et gagné et ce qui était l'inconnu. On appelait aussi ça les confins. Et comme l'avancée s'est toujours faite de l'Est en allant vers l'Ouest, lorsqu'ils sont arrivés en Alaska, c'était the last frontier, la dernière frontière, à l'Ouest.
La dernière frontière avant encore un inconnu quand même du coup,
oui,
qui est à suivre.
Oui. Mais derrière il y a cette image mythique justement de symbolique quoi, cette métaphore, la dernière frontière. Puis l'autre côté il y a quoi?
Ben, surtout que cette dernière frontière, elle paraît finalement pouvoir être toujours repoussée plus loin. Une fois que Lily arrive à Kodiak, qu'elle est partie pêcher, elle parle de Point Barrow, donc vraiment tout au nord. De l'Alaska, le bout du monde. Elle rêve aussi d'aller encore plus loin que juste pêcher sur les chalutiers, c'est aller pêcher le crabe sur la mer de Bering. Et quand elle raconte ça à Joey, un des pêcheurs de Kodiak, il lui dit « Mais vous êtes venu chercher quelque chose qui est impossible à trouver, une sécurité, enfin non même pas, puisque c'est la mort que vous avez l'air de chercher, ou en tout cas vouloir rencontrer. Vous êtes comme tous ces soldats qui partent affronter le combat, comme si votre vie ne vous suffisait plus, s'il fallait trouver une raison de mourir, ou s'il vous fallait expier quelque chose. » Et la dernière frontière aussi, dont là, ce que tu dis, ça fait aussi penser à la proximité à la mort, ce point de friction entre un danger, un épuisement et peut-être le fait de tenir encore et de se sentir en vie. Alors je me demande comment est-ce qu'on trouve cet endroit-là, ce point de friction, et comment est-ce qu'on fait une fois qu'on l'a trouvé pour pas basculer dans notre côté.
Alors déjà, ce que dit Joé, par exemple, sur ces gens qui sont venus chercher quelque chose, un ultime ou une raison de vivre plutôt de mourir. C'est vrai qu'en Alaska, il y a un temps, il y a beaucoup de vétérans du Vietnam qui sont arrivés parce que c'était le seul endroit où ils pouvaient reprendre vie, échapper peut-être au flashback et à l'horreur du souvenir. Il y avait tous ceux qui voulaient recommencer une nouvelle vie, tous ceux qui avaient connu une tragédie affreuse, et aussi des salauds qui avaient fait des horreurs et qui. je vais partir quelque chose et après je.
Du coup, c'est comment est-ce qu'on reste sur ce point de friction là en fait, dans venir vers quand même risquer sa mort ou vouloir la confronter et en même temps rester vivant ou se sentir en vie. Comment est-ce qu'on.
Mais alors, quand on va chercher l'ultime, et quand on a les ultimes. Donc, ça, pour Lily, son ultime, c'est Point Barrow. Point Barrow, c'est le bout du monde, c'est le bout du. Et lorsqu'elle sera en haut, elle sautera, et puis elle plongera. Et on lui dit, tu vas mourir? Non, je ne mourrai pas. Ah bon, je mourrai? Ah bon? Ah, peut-être. Et c'est donc, oui, ce fil du rasoir que recherchent ces gens qui vont au bout de tout. On sait que la vie, la mort, c'est. Aller se confronter à. Aller enfin se confronter à l'ultime et puis aller un petit peu jouer avec la. Chatouiller la mort et puis le. Et puis ce risque, oser le risque, c'est quelque chose de. C'est oser vivre, peut-être. Mmh. C'est. Larguer une amarre, mais vers l'inconnu.
Le personnage de Lily le prend aussi avec pas mal de légèreté presque. Elle dit que quand elle sera arrivée à Point Barrow, elle va s'asseoir au bout, tout en haut du monde, et après elle sautera, ou peut-être qu'elle redescendra pêcher, comme si pêcher c'est aussi la chose qui sert encore d'ancrage et qui empêche.
Qui peut sauver la vie.
Et qui fait rester là.
Qui peut sauver la vie. On comprend que la mer peut vous tuer, mais en même temps qu'elle peut vous sauver la vie, parce que justement il faut larguer. Il faut larguer les amarres, et lorsqu'on garde on largue les amarres, on largue avec tout. Tout ce qui vous a tenu, tout ce qui va vous a protégé, mais quelle protection, tout ce qui vous a retenu, tout ce qui vous a empêché, tout ce qui vous a caché la réalité des choses. Donc oui, au début du livre, elle encore ces deux choses. Même dans le livre, est-ce que on saute ou alors peut-être retourner pêcher si. Et surtout le crabe sur la mer de Bering, enfin, c'est le plus dur. C'est le plus merveilleux.
Et ça, c'est pas dans le livre, mais tu l'as fait finalement.
Je l'ai fait finalement, 6 ans plus tard, oui.
Et t'en es revenu.
J'en suis revenue. Mais lorsque je suis partie, c'est vrai, mon premier embarquement pour le crabe, donc il fallait 3 nuits et 3 jours de mer pour arriver à De Chambord. Et les hommes du port me regardaient si gentiment. Il y avait comme de la douceur dans leurs yeux, puis quelque chose de. Et je me suis dit, je reviendrai pas, tout simplement, hein, c'est que je l'ai bien voulu. Et donc, quand on est arrivé à De Chambord, bon, je le raconte dans un autre essai, mais j'étais devenue muette. Je ne pouvais plus parler. J'ai dit, je vais mourir. Hein. Alors je regardais tous les gros bateaux pour le crabe à côté, les casiers, puis j'avais appris à grimper aussi sur les casiers, à les détacher, à les. Mais. Et c'était un moment assez merveilleux aussi. C'était un peu comme être sur le fil, c'était que. Je n'en reviendrai peut-être pas. Quelque chose de miraculeux.
Il y a un autre passage que j'aurais bien envie que tu lises, que j'aime beaucoup, parce qu'il parle aussi de peut-être qu'est-ce qui fait tenir dans cet entre-deux, dans ce point de friction, un peu de cette frontière entre vie et mort, qui est page 115, 116. Je fais comme si je l'indiquais, mais il y a un gros post-it dessus, juste là. Voilà.
La pêche fait reprendre dès demain. Dès demain, dans quelques heures, les cris, la peur au ventre, les palangres qui filent vers les flots, le bruit, la vague et la fureur, comme un tourbillon dans lequel ce corps tendu ne s'appartiendra plus. Mécanique de chair et de sang, portée par la seule volonté de résister. Cœur fou, embrun glacé, visage écorché par le vent, l'encre finale du banc de ligne attendue comme une délivrance, et le sang des poissons va ruisseler. Quelque part encore, à cette heure, les vieux trucks immobiles attendent. Le bateau bleu pourri sur des cales. Ils s'enfoncent dans leur sommeil minéral, mort déjà, figé jusqu'à la fin du terrain désolé. Et Steve, entre ces murs, à l'intérieur d'autres murs, la vie de Steve qui s'abrite au milieu d'objets disparates, entre un amoncellement de linge sale, une télévision, le fauteuil rouge, une thermos. Est-il rentré du bar? A-t-il buté dans les sacs poubelles? Dort-il? Mais pas nous. Nous jamais plus. Les contours fixes de ce monde, nous les avons laissés à terre. Et on va la regagner enfin, la splendeur brûlante de nos vies. Nous sommes dans le souffle qui jamais ne s'arrête. La bouche du monde s'est refermée sur nous. Et l'on va donner nos forces jusqu'en tomber mort peut-être. Pour nous, la volupté de l'exténuement.
Merci. J'ai l'impression que dans ce passage aussi, ce qui apparaît, c'est que la dernière frontière, c'est aussi peut-être la dernière limite qui est celle du corps, la dernière membrane à dépasser pour se fondre ou se mêler dans un grand tout, que ce soit l'océan, le bateau, l'équipage, qu'il y a cette volonté aussi de cette frontière un peu de l'individuel à outrepasser et pour se fondre dans un... Oui, faire partie d'eux, en fait.
Oui. C'est long, ça met des jours, d'épuisement. C'est d'abord, il faut larguer. La première fois qu'on largue, c'est terrible. On se dit, oh, je suis entre à la merci du bateau et à la merci de la colère, de la violence des cris. Mais j'ai largué le monde et ce monde que je voulais larguer. Je suis toute seule. Après le travail, oui, le travail de plus en plus dur. Très peu de sommeil. On mange parfois le froid. Et le corps, et c'est très intéressant dans le corps, cette espèce de... Mais le corps a peur au début. Il crève de trouille. La tête aussi, d'ailleurs. Peut-être davantage. Et de jour en jour, avec le bruit de la vague qui vous emporte, qui revient, et qui vous... Tout vous lamine, et l'épuisement, et la fatigue, et la vague, et là, qui vous heurte, et le travail répétitif quand même, parce que c'est quand même... Et petit à petit, on a l'impression qu'on lâche, on perd petit à petit tout ce qui vous a retenu, tout ce qui vous a... Jusqu'à ce qu'on soit plus qu'un corps. Ce corps qui a faim, qui a froid, qui voudrait boire un peu de café... et qui voudrait surtout dormir. Et vient un moment où, lorsqu'on va... Et justement, lorsqu'on a atteint cet état, il n'y a plus... De toute façon, il n'y a plus de problème de genre sur le bateau depuis longtemps, mais on se sent comme... un seul bloc avec les autres, parce qu'on est unis par notre fatigue, et puis surtout par le travail, la ligne qu'il va falloir toujours, qui est notre seule urgence. Et lorsqu'on s'endort enfin... C'est la volupté d'exténuement. Et je ne crois pas avoir ressenti quelque chose d'aussi bon. Mais. Alors certains diront que c'est juste une histoire d'endorphine, une histoire d'hormones, une histoire de glandes. Peut-être que ce n'est que ça. Mais c'est un tel. C'est surtout une libération de la tête, de l'esprit. On n'est plus qu'un corps.
Mais toi, tu parles de la première fois où il a fallu larguer les amarres. C'était quand cette première fois pour toi? Est-ce que c'est le moment où Lily quitte, ou toi, on peut dire aussi, on va y revenir après d'ailleurs. Est-ce que c'est le moment où Lily, toi, quitte la France? Est-ce que c'est le moment où t'embarques pour la première fois? Est-ce que c'est la première fois que tu ouvres un poisson?
Non, c'est la première fois. La première grande chose terrible quand même, c'est de larguer. Lorsque le patron dit « cut it loose », c'est de larguer les amarres. Et elle le dit bien, elle dit « je sais déjà que je n'en reviendrai plus ». Alors, Mais jamais revenu de ce voyage.
Et alors oui, là, c'est terrorisant. Et c'est ça qui est important, il faut se perdre. Il faut devenir complètement, complètement, plus rien du tout, plus de sécurité, plus rien du tout pour se refaire, pour se recréer, et puis Et ça, c'est la première fois, donc c'est largué. Et puis après, de jour en jour, la première tuerie aussi est quelque chose de terrible. Parce que Lily, ou moi, espère être un grand pêcheur, mais surtout pour embarquer. Pas tant pour tuer, parce que tuer, c'était vraiment pas le but dans la vie. Hein. C'était être sur un bateau, être dans le ventre d'un bateau avec un équipage, et puis être un bon travailleur, être une bonne travailleuse, donner toutes ses forces, enfin se donner tout entière à une ligne qu'on suit comme un fil d'Ariane. J'avais juste le fil. La ligne, je l'ai encore perdue.
Ça mord pas.
Oui. Et là-dessus, oui. Ah oui, cette tuerie, la tuerie. Oui, on arrive à la tuerie. Et donc, la première tuerie est quelque chose d'absolument glaçant. Ces pauvres poissons auxquels on ouvre les ventres, la gueule ouverte, là, ils suffoquent déjà sous la lumière des... Plus tard, la pêche au flétan, la première pêche au flétan, lorsqu'elle tue, elle égorge son premier, elle prend dans les bras, elle roule avec elle, et puis elle roule avec lui, et puis... Peut-être qu'elle pleure, peut-être qu'elle... Et il faut faire comme les hommes, il faut trancher cette chair, et ça fait un bruit, un crissement, parce que la chair est drue, la chair est... Lorsque ça pourfend, là... Et c'est quelqu'un qui a son égal, là, pratiquement, c'est son... un semblable. Et c'est, son, oui, c'est une autre première fois, une autre réalité qui est importante à connaître, qui est le début de...
Mais surtout ce moment, cette scène de, où Lily tue son premier flétan, c'est vraiment une scène de corps à corps, effectivement, parce que c'est des poissons qui font presque sa taille, c'est énorme. Mais surtout c'est faire corps au point où elle mange le cœur du poisson cru. Bah, c'est faire corps au sens littéral. Ouais.
Mais c'est pas... Alors certains disent, oui, c'est un truc très, très chamaniste ou je ne sais quoi. Oh, c'était pas du tout ça. C'est de voir ce petit cœur qui battait sur la table, là. Et le pont était glacé, il faisait froid. Toutes les tripes avaient été arrachées, jetées à l'eau. Et on avait un peu sur la figure, dans les cheveux, un peu sur... Bref. Et on voit cette petite chose qui veut pas mourir. Et qui continue. Et plop, et plop, et plop, et plop. Alors, qu'est-ce que je fais? Je remets à l'eau? On va avoir froid dans l'eau? Un truc qui veut rien dire? Un poisson va la manger? Qu'est-ce que je peux faire? Je vais la mettre au chaud? Et une fois, bah, avec la pêche avec John, quand j'étais trop désespérée, puis après les uns après les autres, c'était glacé, ça, comme une petite brûlure glacée dans la... Et en même temps, c'est leur vie, là, mais de toute façon, c'est fichu, c'est... Mais... Dans moi, la garder un peu quand même.
Je pensais aussi par rapport à cette notion de faire corps, on sait qu'il y a cette ombre un peu de Manosque les couteaux qui plane tout au long du récit, l'endroit que tu as quitté. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui a fait que tu as dû partir. Ça aussi, est-ce que c'est de la fuite, est-ce que c'est de la survie? Et comme tu l'as dit, presque toutes les personnes qui arrivent là en Alaska, c'est ça aussi, c'est ça, devoir s'arracher à quelque chose. Et je me demandais si cette recherche aussi de faire corps par l'exténuement, par le travail, par la mer, c'est aussi qu'une fois qu'on fait partie d'un grand tout, est-ce qu'en fait on est vraiment encore arraché à quoi que ce soit, vu qu'il n'y a plus... On se noie dans autre chose, ça permet peut-être aussi de se libérer, de couper les racines.
Alors d'abord, Lily, lorsqu'elle quitte Manosque, je ne voulais pas en dire plus. Au début, dans le livre, j'ai dit une petite phrase en plus, et l'éditeur m'a dit, Catherine, vous en dites déjà trop. Et puis j'ai dit, vous avez raison, Olivier. De toute façon, votre histoire, je l'ai déjà écrite, on ne va pas tout mélanger. Mais surtout, je voulais vraiment que cette femme ne paraisse... Elle n'est pas plus importante que tous ces hommes qui débarquent, ces femmes aussi, mais il y a surtout des hommes dans ce livre. Après, j'en ferai d'autres où je parlais des femmes aussi, parce qu'il y en a. Mais là, quand on rencontre... Bon, c'est le commencement. Mais donc, Lily est comme tous ces hommes qui ont quelque chose avec lequel ils ne peuvent plus vivre ou ne veulent plus vivre, ils veulent rester vivants. Et ça ne peut pas passer par la douceur. Ça, c'est trop facile. Ils ont connu des choses violentes, on ne se guérit pas comme ça. Alors, je sais que on m'a souvent reproché d'être certainement masochiste pour souffrir comme ça, faire des choses que le corps ressent avec douleur. Et non, et j'ai essayé d'expliquer, non, il faut exorciser. Ces vétérans du Vietnam, tous ces gars que j'ai connus qui avaient eu un drame sanglant derrière eux, des choses vraiment terribles. Et c'était... Oui, il fallait exorciser les démons. Et ça se fait pas... Avec eux, le yoga, ça n'aurait pas marché. Ni la méditation. Il fallait se confronter à quelque chose de puissant. Et donc la nature, évidemment, c'est la... Nature is the best nurse, j'ai entendu dire parfois, c'est la meilleure infirmière, mais bon, c'est un peu un lieu commun. Mais la puissance de l'océan, la puissance des flots et la puissance des vents, on sait bien qu'on ne peut pas les combattre. Ce n'est pas une question de combat. On sait bien qu'ils sont plus forts que nous. Et en les affrontant, mais pas en les combattant, c'est soi-même qu'on combat, c'est ses propres peurs, c'est sa faiblesse, c'est toutes les choses qui vous envahissent, c'est ce cerveau qui vous dévore. Et donc oui, donner son corps complètement au travail, à l'effort et à l'exténuement, enfin, on arrive à cet état d'apaisement qui n'est que passager. C'est pour ça qu'il faut toujours recommencer.
Et quand on... En fait, j'ai oublié, j'aurais dû le dire au début, ça, je suis désolée. À l'arrière, le PowerPoint, donc, c'est des photographies que tu as prises pendant ces 10 ans en Alaska et qui vont être là pour illustrer, soutenir ou donner le départ d'une question, comme ça va être le cas maintenant. C'est qu'il faut toujours repartir en mer et en même temps, à un moment, il y a ces retours en terre, enfin, au port, où là, les marins attendent, doivent retaper les bateaux, vider les cales. Et quand il y a ce retour en terre, en fait, beaucoup semblent avoir de la peine à gérer ça. D'une part, physiquement, il y a cette description de Jude, le grand marin, qui est très impressionnant, qui est le grand marin sur le bateau, et quand il est à terre, devient très maladroit, sait plus quoi faire de son corps. Et pour beaucoup, surtout, c'est comme si cette continuité de ce détachement de soi, d'exténuement, ça passe par, d'où la photo du liquor store, par l'alcool, le crack, le sexe, ou autre. Et ça semble, en fait, ce qui est étonnant, c'est que ça ne semble pas être le cas pour Lily et pour toi. Et je me demande comment est-ce que tu parviens à te tenir à distance de ça. En fait, comment est-ce que tu parviens à trouver autre chose, peut-être, qui maintient ce dénuement de soi quand tu es à terre.
Alors d'abord, les hommes, souvent les hommes, en tout cas là dans ce livre, mais les femmes, c'est pareil. Bon, quand il rentre à terre, il y a eu une addiction quand même à se donner totalement dans quelque chose jusqu'au bout de ses forces. Et donc, quand on arrive à terre, le corps ne peut pas non plus accepter cette tranquillité. Alors, il y a bien quelques gars qui sont alcooliques anonymes, parce qu'ils ont trop exagéré, et puis ils ont décidé de s'arrêter. Mais ils s'ennuient beaucoup, beaucoup. Et les autres, c'est le corps qui demande encore, qui veut encore une espèce de... Parce qu'il y a une ivresse dans ce travail de la pêche. Une ivresse dans ne plus dormir, une ivresse dans le répétitif, une ivresse dans la tuerie peut-être aussi. Et la terre est tellement ennuyeuse quand on arrive à... Parce que on arrive d'un monde où il n'y avait plus de... Un monde, oui, il y avait une unité. Il y avait plus. On travaillait le jour, la nuit, donc il n'y avait plus de jour ni de nuit. Il n'y avait plus d'heure d'horaire pour fixe pour quoi que ce soit. Il n'y avait plus d'apparence puisque de toute façon on n'était plus présentable du tout. Il n'y avait plus de sécurité puisqu'on pouvait être emporté à tout moment. Il y a juste la mer, le bateau, la ligne, l'équipage. Et non, alors quand on rentre, il y a cette espèce, c'est absolument épuisant. Alors, d'accord, il y a l'exténuement en mer, mais celui de retrouver ces bruits, ce monde fractionné, c'est difficile. Et puis pour beaucoup de ces marins, il y a aussi que ils n'ont pas de famille, ils n'ont personne. Donc, la famille, c'est le bar. C'est là qu'on retrouve les autres. C'est là qu'on retrouve ceux qui reviennent de mer aussi. Et c'est là qu'on... Un autre lâcher prise, mais dans le... Le corps veut encore de l'excès, mais là, c'est dans un lâcher prise. Et là, pareil, on ne peut plus s'arrêter. Et Lily résiste parce que, pour elle, elle est encore neuve. Elle a un regard neuf sur les choses. C'est que le commencement. Elle veut partir aller pêcher le crabe. Donc elle a encore du chemin à faire.
Donc l'idée d'aller... Ce qui la garde lui permet de rester, de continuer
au Point Barrow, la pêche au crabe, mais... Cette merveille de découvrir tout d'un coup. Quand je suis arrivée à Kodiak, j'ai trouvé un bateau assez rapidement, un embarquement assez rapidement. Et puis donc, il a fallu travailler sur le bateau pour préparer le bateau très très tard, tous les jours, pendant un bon bout de temps. Et à ce moment-là, j'ai oublié qu'il existait autre chose que le port. Un matin, je me suis réveillée, je me dis, quelqu'un me parle d'une piste pour aller. Il dit, si tu veux un jour, je t'emmènerai voir ce qu'il y a au bout de la piste. C'était une île. Et tout d'un coup, je me suis dit, ça fait comme un tilt. Je me suis dit, ah, parce qu'il existe autre chose que Kodiak, que les bateaux. Donc Lily est encore l'émerveillement d'eux. Les autres sont fatigués. Jude est très fatigué, est un homme très, très fatigué.
Et ce livre, il couvre aussi, je crois que c'est 3 mois, c'est les 3 premiers
oui,
mois.
Oui, c'est que 3 mois.
Et toi, tu l'as fait 10 ans, donc après 10 ans, est-ce que cette idée-là de la pêche au crabe ou juste de ces trucs du mouvement, ça t'a encore gardé hors de ça? T'as continué à avoir quelque chose qui te rassemble quand t'étais à terre, qui n'était pas ces choses qui leur permettent de continuer à s'oublier, mais qui sont des choses qui détruisent aussi quand même très concrètement.
Oui. Bon, après rapidement, j'étais capable de bien boire aussi. Hein.
Okay.
D'ailleurs, 6 ans plus tard, lorsqu'une patronne m'a embauchée, on parle après des femmes.
C'est pas, on non, non, on peut y arriver maintenant, c'est très bien.
Mais elle m'a dit, j'hésitais à t'embaucher parce que tout le monde dit que tu es beaucoup au B&B. Le B&B, c'était Beer and Booze. C'est pas Bed and Breakfast. Beer and Booze, ça veut dire bière et booze, c'est le gros alcool qui tâche, quoi. Et donc, mais c'était notre bar préféré, le bar des marins, des matelots, quoi. C'était vraiment le plus vivant, quoi. Et c'est vrai, j'avais pas de maison non plus, j'avais rien. C'était la famille. Et j'étais beaucoup au B&B, et puis les bières, ça y allait fort. Quand c'était pas les petits shots de les tournées générales de. Mais et la patronne, mais ça n'empêchait pas. J'aimais tellement ce travail, embarqué toujours. Et puis cette vie d'équipage, et puis cette vie de. Que je pouvais dormir 2 heures et j'étais la première sur pied de l'équipage et j'étais sur le pont. Il n'y a pas de problème.
On va effectivement arriver à la question des femmes, ou en tout cas du genre, parce que c'est... En même temps, je sais que c'est quelque chose que tu as dit, qui revient beaucoup dans les interviews, parce qu'effectivement, moi, ça me paraît évident, c'est quand même... Un livre que tu as écrit où tu parles de cette expérience où tu te retrouves dans un monde, pour parler en termes binaires, mais majoritairement d'hommes. Et en fait, ce que tu as expliqué aussi, c'est que donc, ce livre couvre les 3 premiers mois à l'arrivée en Alaska de Lily. Et il y a très peu d'autres femmes, effectivement. Et la majorité qu'elle rencontre sont serveuses dans les bars. Il y en a quelques-unes seulement qui travaillent sur les bateaux. Il y a Diana qu'elle rencontre à un moment. Une femme aussi qui était anciennement skipper, qui la prend en voiture. Et... Dans une interview, un entretien, je t'ai entendu dire qu'il y a peu de femmes parce qu'à ce moment-là, dans ces débuts, quand tu es arrivée à Kodiak, tu n'en as pas rencontré beaucoup. Mais dans les années qui ont suivi, il y en a eu de plus en plus. Et tu l'as abordé brièvement avant. Tu as même eu, du coup, une patronne aussi qui était skipper.
Oui, Renaissance. Et cette femme avait commencé... Elle est arrivée des États-Unis parce que même pour les gens qui ne sont pas d'Alaska, mais les Américains qui ne sont pas d'Alaska, l'Alaska représente quand même une contrée mythique. Et souvent, des jeunes à 17, 18 ans, bah, ils vont pêcher le saumon en été. C'est comme passer à l'âge adulte. C'est un... Parce que leur père l'a fait, le grand-père l'a fait. C'est... Et cette femme, donc, elle est arrivée très jeune, peut-être du Montana, je ne sais plus d'où. Et là, elle avait pêché le saumon, elle était restée quelques temps, jusqu'à ce qu'elle tombe amoureuse d'un skipper, qu'elle l'épouse. Elle a eu des enfants rapidement. Et alors, très très vite, celui qui buvait beaucoup, lui, John, j'ai pêché pour lui, il buvait beaucoup, beaucoup. Et alors, pour finir, il vivait sur une petite île, juste à côté de Kodiak. Alors, c'est lui qui s'occupait des enfants, qui élevait les enfants. Et puis, elle, elle les dit comme ça, moi, je... Et elle a appris à pêcher, seining, sur un seineur, à pêcher à la Seine. Et donc, au début, elle a eu son propre bateau. Et au début, elle ne voulait employer que des femmes. Elle dit, moi, je vais montrer que les femmes sont capables comme les autres. Hein. Et puis, au bout de quelques années, quand elle m'a embauchée, elle était presque... elle allait prendre sa retraite. Elle m'a dit, tu sais, ça fait quelques années, j'en ai plus rien à faire. J'ai réussi à... Quand j'étais jeune, j'ai réussi à prouver que les femmes pouvaient faire, étaient aussi bonnes. Et que, elle me dit maintenant, l'important c'est que j'ai un bon matelot. Et donc elle m'avait embauchée, malgré qu'elle en dise que je traînais pas trop, parce que j'étais toujours presque toujours en pêche. Mais que quand j'étais à terre, j'étais beaucoup au B&B.
Mais tu dis plusieurs fois que c'est comme si la question du genre, elle était plus importante une fois que tu étais en mer. En même temps, Diana, à un moment, te dit dans le livre, elle te dit « Nous, les femmes, on n'a pas le droit à l'erreur si on veut être acceptée par les autres pêcheurs. » Et en fait, on le fait sentir quand même. Simon qui est... Parce qu'il y a la question que tu es une femme, mais il y a la question que tu es green aussi au début quand tu arrives. Donc, nous, un peu neuve, comme on oui. peut dire ça.
Greenhorn, c'est-à-dire une bleue.
Voilà.
Oui.
Et Simon green qui est aussi green à ce moment-là.
Corne verte, c'est être bleu, oui.
Et Simon qui est aussi green à ce moment-là, te dit à un moment que lui pensait aussi que tu avais été embauchée... Pas pour pêcher, mais pour autre chose, pour oui. dire comme ça. Donc, en fait, on te le fait quand même sentir, la question du genre. Oui.
Bon, quand je suis arrivée en Alaska, c'était pas un problème pour moi, parce que j'avais déjà beaucoup travaillé avec des hommes. Et puis, très très jeune, je me suis dit, j'ai quand même 62 ans, j'ai mes 63, donc je suis plus toute jeune. Et donc, quand j'étais très jeune, je me suis vite rendu compte qu'il y avait plein de trucs que je pouvais pas faire. J'aurais voulu être garde forestier, les femmes c'était interdit. Je voulais être compagnon pour faire charpentier ou menuisier, les femmes, il y avait pas de femmes compagnons. Il y a plein de choses comme ça. Alors rapidement, je me suis dit, je sais bien que je suis une femme, mais je peux tenir compte de mon genre parce que ça m'ennuie. Et puis je vais faire comme j'avais travaillé auparavant en étant saisonnière avec beaucoup d'hommes tout le temps. Et je savais un peu me débrouiller quand il fallait. Il y avait un peu avec les un petit peu les poings ou mordre ou peu importe. Mais donc, j'avais pas peur. Donc, les marraines me faisaient pas peur. Je savais comment c'était. Et puis, je savais que, bon, ben, vivre avec des hommes, oui, c'était ce que c'était. Et après, donc. Et là. Donc,
oui, c'était. Moi non plus, je sais plus que c'était ma question d'ailleurs.
C'était.
C'était que la question du genre, on la faisait quand même sentir, même à bord,
oui,
en fait.
Oui. Oui. Donc, oui, mais en fait, je trouve que les hommes ont été très bien avec moi, parce que d'accord, ils m'ont pris ma couchette lorsque je suis arrivée, alors que je travaillais depuis 3 semaines sur le bateau, j'avais droit à ma couchette, premier arrivé, premier servi, mais ils auraient fait ça si c'était un petit gars. Ils ont fait ça parce que j'étais greenhorn, parce que j'étais bleue. Donc, alors, j'ai dormi sur le plancher sale de la timonerie, mais en même temps, je me suis dit, ils n'ont pas fait, pauvre petite, je ne suis rien qu'une petite femme, on va le laisser la couchette. C'est comme Simon, ça n'a pas été facile. Mais après, le respect vient très vite, quand même. Parce que il faut qu'on fasse ses preuves, c'est tout. Si on se met à pleurnicher, et puis si on se met à même un petit gars qui ne supporterait pas, qui ne supporte pas, qui tout d'un coup, il a trop de courbatures, ben on lui dit, bah, tu quittes le bateau, puis tu c'est pas ta place. Et je trouve, oui, que les hommes m'ont quand même bien, bien donné ma chance. C'est vrai qu'une femme sur le bateau a toujours l'impression, et je pense que ça sera toujours comme ça, par rapport à, déjà au gabarit physique. Le gabarit, on le construit aussi. C'est vrai que j'ai été forte avant. Mais... Oui. C'est tellement préparé. Oui.
Mais une autre question sur ça, c'était.
Oui, le genre. Oui,
vas-y.
Enfin.
Non, j'enchaîne.
C'était
le gabarit. T'as l'impression en tant que femme sur un bateau. Oui,
il faut toujours faire ses preuves. Bien évidemment, il faut toujours faire ses preuves. Et j'ai aimé ça en même temps. Chaque embarquement, jusqu'au bout, jusqu'au dernier, ça a été très, très, très. J'avais peur à chaque fois. Pourtant, on me disait que j'étais un bon matelot, pourtant, on voulait m'avoir sur le bateau, mais la nuit avant d'embarquer, j'endormais pas. J'ai dit, cette fois, est-ce que je serai capable? Est-ce que je serai... Et en même temps, je me dis, c'est une chance parce que ça m'a permis de donner du meilleur de moi à chaque fois. Je ne me suis jamais laissée aller. Mais c'est vrai que c'est fatigant. Et sans doute, je me suis beaucoup plus de soucis que je n'avais à me faire. Un manque de sécurité, sans doute. Mais bon, un manque de confiance en soi. Je me souviens une année. J'avais pêché le crabe deux ou trois fois déjà. Et donc j'étais au B&B justement. Et je vois un gars qui débarque et qui me dit je t'ai vu il y a 3 ans à Chambord, sur le Big Valley, là, sur les casiers, là, tu as aidé à décharger les casiers. Il dit, quand c'est contre vous à Dutch, c'est la pêche au crabe. Je lui dis, je doutais tellement à nouveau, je lui dis, écoute, je crois que je suis vraiment pas de taille. Je crois que je vous laisse ça à vous, je suis pas de taille. Il s'est mis en colère. Mais il ne dit plus une chose pareille. Quand on te voit, tu sais que toi, avec tes 100 livres toutes mouillées, je faisais un peu plus que 100 livres quand même, hein, t'es beaucoup plus forte que nous. Tu sais que ça nous fait du bien de te voir. Ça nous donne du courage, ça nous donne de la force. Et là, j'ai beaucoup appris. J'ai vu qu'en fait, ils ne prenaient pas du tout ça comme un, on leur prenait pas la place. Ils avaient besoin que des femmes partagent l'aventure et puis la peine aussi, et puis la fièvre, connaissent cette fièvre d'aller au bout. Donc voilà, je crois que c'est ça.
Mais la question de faire tes preuves, tu l'as quand même presque payé de ta vie à un moment, quand tu as eu cette pique d'idiot fish qui était du poison et que tu as refusé, en tout cas dans le livre, elle refuse de le dire, oui, de dire qu'il faut, oui, qu'elle arrête de pêcher. Est-ce que c'est aussi motivé par la question de, ils vont penser que je pleurniche, mais en même temps...
C'était surtout parce que je voulais pas partir. J'ai enfin trouvé mon bateau, je partirai plus. Bon, je dis, ça va pas mourir comme ça quand même, la bête. C'est plus solide. Et c'est vrai que ça devenait problématique. Quand les ganglions du haut sont complètement fondus, très, 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 très mal, sans tout. Et que la main est une énorme boursouflure, on se dit, il faudrait peut-être faire quelque chose. Et heureusement que le grand marin l'a vu, parce qu'autrement, je n'aurais rien dit. Mais je voulais rester à bord. J'étais têtue. Comme quand j'ai cru que l'immigration, il y avait l'immigration qui tournait autour, j'ai dit au patron, mais t'inquiète pas, si c'est l'immigration, je saute à l'eau, ils ne m'auront pas. Ils ne m'auront pas vivante. Et j'étais prête à le faire, parce que j'avais enfin trouvé. J'ai eu l'impression que j'avais enfin trouvé ma vie.
Comme je vois que le temps passe, il faut que je passe les questions aussi. J'ai essayé de faire la même chose avec les photos. Là, c'est une photo de toi donc, qui pêche. Moi, je ne sais pas quel poisson c'est, je ne peux absolument pas l'identifier.
Un tout petit flétan.
Un tout petit flétan. Voilà. Et je voulais choisir cette photo parce qu'on te voit toi donc, en tant que pêcheuse, en tant que marin là-dessus. Et le nom de ton livre, c'est Le Grand Marin. Et c'est comme ça que dans le récit, on nomme Jude, qui est un des pêcheurs que Lily va rencontrer à Kodiak et avec lequel elle part pêcher sur le Rebelle. Et dans un entretien, tu dis avoir voulu écrire son histoire à lui, Jude le Grand Marin. Mais en fait, à la fin, c'est presque un détour pour raconter ton histoire à toi, à Lily, la narratrice. Et je me demande, est-ce que tu aurais envisagé de que ce soit toi, le Grand Marin ?
Oh, absolument pas. C'est un malentendu, en fait, que je sois dans ce livre. J'ai eu la chance qu'on me donne un contrat lorsque j'étais bergère à la montagne. Il y a un écrivain qui est venu me voir. Elle écrivait un livre sur la prédation. Elle a eu besoin de rester quelques jours avec moi. Elle aimait mes histoires. Et elle m'a dit, donne-moi quelques feuilles. Elle en a donné à Olivier Cohen, des éditions. Donc j'ai eu un contrat. Ça m'a donné 3 mois. Et je voulais absolument faire parler juste de ce grand marin, de la solitude d'un homme qui se brûle d'alcool et puis que la mer sauve à chaque fois. C'est la mer qui lui sauve la vie. Si elle ne le tue pas un jour, mais ça c'est qu'un détail. On meurt qu'une fois, mais au moins on meurt debout. Enfin. Et donc, j'avais trop. Je ne savais pas comment faire, parce que ce grand marin est dans tes œufs. Donc, quelqu'un qui ne parle pas, je ne savais pas comment l'exprimer. Et puis surtout, 3 mois, je voyais le temps qui passait. Donc, dis donc, je vais tricher, je vais me servir de mon histoire à moi. Je servirai juste de révélateur. Je suis le regard, donc j'ai pouvoir. Et puis, ça servira à pouvoir confronter, à révéler. Deux personnages très différents. Lui, une espèce de Bukowski quand même. Et puis, la petite nana qui arrive, la petite oie blanche là, qui arrive, qui ne connaît rien à rien. Ça fait... Oui, ça révèle l'un l'autre, quoi. Donc voilà, c'est un... Non, je pensais... Et je dirais jamais que j'étais grand marin, non, non. Il faut beaucoup d'expérience, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Ça prend des années, des années, des années.
Il y a un autre passage qui met en avant une des autres thématiques de ce livre, où c'est justement toi qui dis au grand marin « Il faut me laisser libre, autrement je m'en vais. De toute façon, je m'en vais toujours. » Je ne peux pas m'en empêcher. Ça me rend folle quand on m'oblige à rester. Dans un lit, une maison, ça me rend mauvaise. Je ne suis pas vivable. Je veux qu'on me laisse courir. Et dans Le Grand Marin, ça revient beaucoup, cette crainte de ce qui enferme, qu'il s'agisse du quotidien, du couple, de la famille, du logement. Et là, je vais faire un petit grand parallèle. Mais hier, tu étais à Paris pour décerner un prix d'écriture en milieu carcéral et dont tu étais membre du jury pour la 3e année consécutive. Donc, c'est venu en fait suite au fait que tu as fait des rencontres en milieu carcéral à propos de ton livre. Donc, de toi parler de cette crainte de l'enfermement, t'en es venu à rencontrer des gens qui sont réellement physiquement enfermés. Je me demandais comment t'étais arrivée à faire ces rencontres-là et à faire partie de ce jury.
Mais depuis toujours, je suis un peu obsédée par cette peur de l'enfermement, mais que ce soit dans l'enfermement dans la maladie, l'enfermement aussi dans la... Les hôpitaux psychiatriques, l'enfermement dans les maisons de retraite, l'enfermement et l'enfermement en milieu carcéral aussi. Ça s'est fait tout à fait par hasard, ma première rencontre. Mais non, c'était grâce au Grand Marin. Donc on a organisé une rencontre en prison. Ils ont organisé une rencontre à la prison de Réau, une centrale, où j'ai rencontré Maria Sol, une grande terroriste de l'ETA. C'était extraordinaire, la rencontre avec tous les détenus. Et tout d'un coup, ça jaillit, tous et toutes. J'avais l'impression que c'était des potes, quoi. Des gens que j'avais croisés sur la route, des gens avec qui j'avais pêché, des gens beaucoup qui avaient eu des vies un peu accidentées ou cabossées. Et comme on avait peu de temps, tout jaillissait. Tout... C'était tellement... Et alors j'ai continué, jusqu'à ce qu'on me propose donc, de ces rencontres, de faire partie d'un jury. Ce qui me fascine aussi, c'est que je me rends très bien compte que les gens que je vais voir en prison, en fait, aussi, ils ont été sur le fil du rasoir, et qu'on est peut-être tous un peu sur le fil du rasoir, et que c'est pas difficile de passer d'un côté ou de l'autre. On est facilement à la limite de basculer. Et puis, je sais pas. C'est l'humanité. Et enfermé, c'est... Ah oui, il y a le secret de chacun, le mystère de chacun dont on ne parle pas. Et ils n'en parleront jamais, parce que c'est comme nos vies, on ne parle pas de ce pourquoi ils sont venus. Ça appartient à chacun. C'est pas...
Et c'est l'humanité, on peut tous être sur le fil du rasoir un moment. Il y a aussi ce qu'on disait par rapport à la question politiquement très houleuse du milieu carcéral et de... Certains tombent du mauvais côté du fil du rasoir, pas forcément en question d'actes qu'ils ont commis, mais d'un système de justice qui est problématique à beaucoup de niveaux.
Mais je suis aussi un peu... dans mon second livre, Le cœur blanc, ça parle de saisonniers un peu fous, quoi, dans cette campagne de Provence. Alors, ils ressemblent à des petits animaux là, qui boivent, qui travaillent, qui copulent, peu importe. Mais ils sont extrêmement enfermés aussi sous ce grand ciel et cette nature implacable entre ces montagnes. Et dans le Grand Marin, je trouve qu'on sent quand même une espèce d'enfermement dans ces... De toute façon, ils sont enfermés dans leur vie ou dans leur... C'est peut-être quelque chose d'existentiel. Cette peur de ce qui nous... Cette liberté qui est-elle...
Là, je termine. Je viens de rendre un essai qui sortira fin août. On me demande un essai sur la part animale. C'est un peu vaste comme truc. Et puis j'ai réussi. Et de fil en aiguille, je suis arrivée. C'est devenu une réflexion sur bon, le sauvage, l'assujetti, le domestiqué, l'emprise. Et puis on retombe encore à l'enfermement. Et on retombe encore à cette idée de qu'est-ce que la liberté ? Qu'est-ce que. C'est toujours cette question qui. Que tous recherchent, en fait, hein, peut-être dans mes livres.
Mais aussi, qu'est-ce que la liberté, et comment tu la continues ? Parce que, après 10 ans, tu as finalement fini par être arrêtée par l'immigration. D'ailleurs, j'ai bien aimé entendre ça, que tu étais étonnée parce que tes faux papiers étaient très bien faits. Et t'as dû être emprisonné pendant quelques jours, puis expulsé du territoire des États-Unis, et c'était une expulsion, c'était une interdiction de territoire pendant 10 ans. Et t'as ensuite travaillé comme bergère, et maintenant dans la vigne, et c'est des activités toujours physiques, mais quand même différentes. Donc comment est-ce que tu continues d'appréhender cette recherche, que ce soit la recherche de l'ultime, que ce soit la recherche du dénuement, de la liberté ? Est-ce que tu continues à trouver cette quête-là dans ces activités aussi ?
Oh, la vigne, c'est quand même très, très... J'avais vu auparavant, c'est un travail qui est... qui n'a rien de... Enfin, la petite vigne que je travaille, je suis seule, donc ça, c'est bien. Je profite de cette grande solitude. Mais être bergère transhumante, c'était quand même autre chose. Lorsque j'étais... Oui, j'ai rentré en France, je dis, que pourrais-je faire qu'il soit... Je suis encore... Où je puisse retrouver un peu la force de la nature comme quand je pêchais. Et donc, je vais faire une formation pour tailler la vigne. Il faisait aussi un truc de formation de berger. Ils m'ont dit que je ferais une bonne bergère. J'y allais, j'embarque. Et vous savez, quand je me suis retrouvée dans la montagne, parfois, une nuit, il y avait les loups, et les loups étaient très proches. Et les patous avaient tellement effrayé, est-ce qu'ils étaient vraiment venus trop proches du parc, ce sont des parcs flottants. Et donc, les patous avaient cassé le parc, il s'était passé quelque chose. Ma cabane était juste à côté, j'écoutais tout. Et je me levais sans arrêt la nuit, tout le temps. Et donc, la moitié du troupeau était parti, vite je referme le parc. Les brebis avaient peur, là, ils m'ont floqué, là. Mais ils me regardaient avec des yeux de terreur. Je les ai rassurés, j'ai sorti mon duvet. De toute façon, les patous étaient partis avec les bêtes, donc ils protégeraient des loups. Et moi, il fallait que je protège les autres. Et puis, de toute façon, il faisait si noir que je me serais cassé la gueule. Alors j'ai sorti mon duvet, je me suis couché à côté des bêtes. Puis la nuit était glacée, il y avait du vent, il y avait quelque chose de pur, pur, pur. J'ai fermé les yeux, tout d'un coup c'est comme si j'avais l'impression d'être sur le bateau. La même urgence, la même pureté, la même... Être loin, loin de la terre, loin de tous encore. C'était... J'y sais ça, c'est donc ça, j'y suis encore. Sauf que cette fois c'est moi le capitaine du bateau. Et que j'avais un équipage, c'était les brebis, il était immense. Et qu'il fallait ramener un bon port tous les soirs. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai retrouvé ça. Et après, par la suite, quand j'ai arrêté d'être bergère, non, je ne peux pas dire que... Oui, il y a un détachement à travailler la vigne, parce que je travaille seule. Mais ça n'a plus rien de comparable, quand même. C'est vraiment... C'est derrière.
Mais... Si je ne me trompe pas, maintenant, le délai des 10 ans d'interdiction de territoire, il est dépassé. Est-ce que c'est une envie encore qui existe chez toi de te dire que tu pourrais repartir là-bas ?
Ben, j'en ai beaucoup rêvé. Je rêve que j'arrive là-bas, et puis qu'il n'y a plus de B&B, et que je cherche les B&B partout, et qu'il n'existe plus, et que les gens sont... Mais c'est comme si c'est tout le monde qui est là. Ou alors j'arrive juste à l'endroit, puis j'ai plus les papiers, j'ai jamais les papiers. Et j'arrive jamais. Voilà. En fait, j'aurais aimé y retourner, mais j'aurais aimé y retourner pour pêcher. Parce que c'est lorsque je pêchais, j'étais dans le grand jeu comme les autres. Et si je reste à terre, ben non. J'aurais la douleur, la torture de voir les gars qui reviennent de mer, qui reviennent de pêche, qui reviennent du crabe. On les attendait en fin mars. Et quand ils arrivaient, on les attendait pendant des semaines. Et quand ils arrivaient, épuisés, et puis on les voyait, puis on leur faisait une de ces fêtes au bar. C'était comme des héros pour nous. On savait tout ce qu'ils avaient enduré, tout ce qu'ils avaient. J'ai dit, je devrais juste être celle qui est Mais je ne supporterais pas, moi, de rester au bar tout le temps. Je vais en mourir. Je voulais être dans l'action, je voulais être actrice, pas spectatrice. Et puis, après les 10 ans, j'aurais peut-être pu y retourner, mais j'étais quand même sur la liste rouge. Me marier, de toute façon, je m'étais mariée après, quand j'étais expulsée. Avec un vieux guide de chasse qui était un peu dangereux. Donc, il n'y a pas du tout les papiers, donc j'ai jamais pu y retourner. Et heureusement, parce qu'autrement, je me serais pris une balle. Donc, c'était une histoire. Mais y retourner, je ne sais plus. La page sera trop tournée. Je préfère rêver que j'y retournerai un jour.
Il reste à peu près 10-15 minutes. Moi, j'ai encore 8 questions faciles, mais peut-être vous en avez aussi. Donc, c'est le moment. Peut-être on peut s'y éclairer la salle 2 secondes. Et si quelqu'un, quelqu'une a une question à adresser, c'est votre moment. Ah oui, une question.
Une année, je suis rentrée, un hiver, je suis rentrée en France. Et j'essaie de pêcher à Arcachon, dans le bassin d'Arcachon. Et puis, alors l'armateur était très content d'avoir une femme sur le bateau, il n'en avait jamais eu, il y en avait très très peu. Il y en a peu en France. Hein. Et c'est, par contre, le gars qui menait le bateau ne voulait pas de femme à bord. Il devait prendre pas mal de cocaïne, on avait beau être en France, qu'est-ce qu'il était furieux. Et j'ai presque cru que j'allais y passer des fois. Il me faisait faire des trucs. C'était comme de la haine pour moi. J'ai fait 2 marées ou 3 marées comme ça. 3 marées, c'est à peu près 15 jours. Et lorsque j'ai eu fini, j'entendais à la radio le matin ce que disaient les gars. À la radio, bon, à 3 heures du matin, je vais me lever la première parce que je préparais le petit déjeuner avant qu'on embraye. Et j'entendais toutes leurs grosses plaisanteries lourdes. Moi, ça faisait quand même des années que je pêchais en Alaska. Je me dis, et que j'avais plus rien à prouver là-bas, même si à chaque fois j'avais peur. Je me dis, ça suffit. J'ai plus envie, je suis pas là pour... Quand on rentrait au port et qu'il faut amarrer, bon, tout le monde, tous les matelots ont un petit peu peur de se louper au début quand ils sont sur un premier bateau. Parce qu'il faut pas... Et là, quand on a tous les yeux qui vous guettent, tous les hommes qui vous guettent et qui disent, va rater, puis comment y arriver? Et là, c'est une humiliation. Donc, j'ai refait mon sac et j'ai dit, je retourne à Gobarcom, je retourne en Alaska. C'était un essai. Et donc, quand j'étais expulsée, j'aurais pu essayer encore. Mais j'avais plus le courage. Je me dis, va falloir faire mes preuves. Et j'ai vu comment c'était Arcachon. J'ai dit, je suis juste trop fatiguée. Ça avait été un tel... Et puis, c'est pas le même pays. C'est un pays tellement sauvage, l'Alaska. Quand j'étais en Alaska, au bout de quelques années, un gars m'a dit, tu es assez folle pour être l'une des nôtres. C'est un beau compliment. Mais en France, si on vous dit ça, ou en Europe, si on vous dit t'es assez folle pour... On se dit, on se moque de moi. Et là, c'était le plus beau compliment qu'on ait jamais pu me faire. Donc, c'était pas le même univers. J'avais pas envie de... Et puis, oui, j'étais trop fatiguée. Je me dis, la page est tournée. Et puis surtout, c'était Kodiak que j'aimais. Et puis, j'étais prête à avoir mon propre bateau, parce qu'il y a le vieil Alex qui venait de mourir. Une nuit de 1er janvier. Il vivait sur son bateau, il pêchait à la traîne, donc son bateau lui appartenait. Et la pêche à la traîne, c'est bien, c'est une pêche propre, on pêche poisson par poisson, donc il n'y a aucun tuerie, aucun gaspillage, et on gagne que ce qu'on a besoin de gagner. Et la nuit du 31, il est parti en ville, et puis en faisant redémarrer son skiff, son bateau à monteur pour repartir, il est tombé à l'eau, on l'a retrouvé 3 jours plus tard. Bon. Son bateau était en vente aux enchères, 3 000 $. Et avec la bonne pêche que j'avais enfin faite, la seule de ma vie, enfin la meilleure de ma vie, dirons-nous, je pouvais avoir le bateau et j'allais enfin être mon propre libre. Et là, je me suis fait prendre. C'est pour dire que j'avais pas envie de... Et puis, je sais qu'en France, il y a peu de poissons. Quand j'ai pêché à Arcachon avec les trémailles, ils prennent absolument tout. Les tout petits poissons, jusqu'au moindre petit poisson qui meurt sur le pont parce qu'on n'a pas le temps de rien remettre, je trouvais que c'était quand même un carnage. Tandis qu'en Alaska, il y a des règles extrêmement, extrêmement sévères, des quotas extrêmement sévères. Si on ne respecte pas, l'amende est extrêmement sévère aussi. Voilà.
Vous dites qu'avant chaque marée, il y avait la peur. Quel a été ce rapport à la peur et quels ont été les outils, les trucs pour passer au-dessus de l'immobilisation?
Ben, la peur, pour moi, ça a toujours été un moteur depuis que je suis gamine. Parce que c'est vrai, j'ai commencé à faire du stop très tôt. Très tôt, j'avais très très peur, je partais en courant, j'avais peur des hommes, je me dis, oulala, ils sont dangereux, c'est terrible. J'ai appris à courir, à courir vite, à mordre. Bon, mais je me disais, cette peur-là, elle n'est pas bonne. Si c'est parce que j'ai peur des hommes, je m'arrête de faire des choses, je ne ferai jamais rien. Je me dis, la boîte, c'est comme une boîte de Pandore, on vous cache quelque chose derrière. Alors peut-être que c'est terrible, ça va vous tuer, si on l'ouvre, mais peut-être que si on regarde, au contraire, c'est la liberté. Et à chaque fois, donc, ça a été moteur. Quelque chose qui me faisait peur, je me dis, faut que j'aille voir. Faut que j'aille voir ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'on me cache là? Où? Et ce moteur, et cette peur était importante parce qu'elle m'aidait aussi, parfois, à surpasser quelque chose. Mais c'est très, très, très fatigant. C'est épuisant. C'est douloureux. Et c'est pas forcément qui donne confiance à soi. Mais c'est une espèce d'être à l'épreuve tout le temps et se remettre à l'épreuve. Ben, il faut. Mais en tout cas, ça ne m'a jamais paralysée, au contraire. Quand il y a un moment d'urgence, au contraire, là, c'était comme l'instinct, la survie faisait réagir comme un animal. L'instinct de survie, l'instinct animal. Les animaux ont peur aussi. Et heureusement qu'ils ont peur. S'ils n'avaient pas peur, c'est ça qui les garde vivants.
Est-ce qu'il y a encore une question? Oui.
En visant sur les bateaux, vous avez perdu beaucoup de compagnons.
Oui, j'ai pas mal. Oui. Rien que la première année, on me proposait un bateau pour le crabe. Ils ne m'auraient pas prise parce que j'étais pas prête, mais j'ai quand même rencontré les gars au bar. Il y avait une bonne tête. Le bateau, il a été pris par la. Enfin, il a. Comment dire? Quand la mer, et quand ils prennent les embruns givrants, le bateau se couvre de glace, jusqu'à être boursouflé de glace, et lorsqu'il est trop lourd, et ben, il se retourne. Et les gars étaient trop fatigués, ils se sont pas, c'était le Linji. Les gars étaient trop fatigués, donc et ben, ils étaient tous endormis, sans mort d'un coup. Et par la suite, j'ai connu beaucoup de, oui, j'ai eu pas mal d'amis qui sont morts. C'est redoutable, c'est vrai. Mais, de la même manière, j'en ai perdu aussi beaucoup, qui sont morts à terre, d'alcool et de drogue. Donc, qu'est-ce qui tue plus? Enfin, quelle mort choisir? Enfin, on ne choisit pas, de toute façon, on ne choisit pas. Enfin, si, l'alcool et la drogue, on peut choisir. Mais c'est extrêmement dangereux, oui. Oui. Le bateau, un des bateaux sur lequel j'ai pêché le crabe, Providence. Non, ce n'est pas Providence, Big Valley. Eh bien, ben, j'avais été expulsée, j'étais en France, mais j'aurais très bien pu pêcher sur lui, être sur ce bateau. Et ben, cet hiver, un hiver, il a, lui aussi, s'est retourné. On m'a juste raconté, il y avait juste un survivant qui a réussi à s'en sortir. Il me racontait Rosias. Rosias, je l'avais sur les photos, là. C'est le Mexicain qui tient le grand crabe. Ah oui. Et, oh, c'est des trucs affreux. Il paraît que, sur le bateau retourné, lui et le patron couraient comme des fourmis. Le gars a vu jusqu'à ce qu'on ne le voit plus. Qui j'ai perdu. Enfin, on a pêché une année aussi, on a pêché le crabe, on a perdu le gars. Un des gars, Mike. Alors encore, c'est une longue histoire, on dirait qu'il le savait. Parfois, en mer, on se demande s'il n'y a pas des. On se met à croire aux esprits ou aux forces. Il le savait depuis le début qu'il allait mourir. Mais c'est une trop longue histoire à raconter, on n'a pas le temps. Mais c'était incroyable. Et puis il est passé par-dessus bord juste 3 heures avant la fin de la fermeture.
Bon. Dans le récit, il y a aussi il y a Niképhoros, le personnage qui,
oui.
Lui aussi, fait un suicide,
oui.
Mais qui sont,
oui, il rentre
qui
à la maison.
Trop fatigué, qui dit je rentre à la maison et qui oui. Nage au large.
Oui. Mais étrangement, j'avais pas peur. Lorsqu'il y avait des grandes tempêtes, un jour on a pêché le crabe. Il fallait pêcher, c'était le dernier jour. Après, il y avait la fermeture. Donc, et c'était des petits. Comme les côtes étaient basses cette année-là pour faire revenir les crabes, tout le monde, on ne perdait pas une minute. Il y a des bateaux qui ont quand même arrêté parce que ça soufflait 100 miles nautiques. 100 miles nautiques, ça fait plus de 180 km à l'heure. C'était magnifique. Il y avait la... c'était comme une lave noire. Oui, c'est... Oui, c'est... Et le vent hurlait, c'était un hurlement, mais un mugissement plutôt. Et je suis... Alors, on est sortis sur le pont, et j'étais comme... Et mon travail, c'était aussi de ouvrir les casiers, récupérer les crabes, aller vite chercher, bref, aller au bout du pont. Et les gars m'ont dit, surtout, tu ne bouges pas. Tu restes contre le château, tu ne bouges pas, tu ne vas pas sur le pont, tu t'approches juste de la lisse, d'accord, pas plus. Autrement, le vent t'emporte. Il t'emporte tout de suite. Et alors, ça a été des heures de pêche dans la nuit, jusqu'au matin à une... ailleurs, un autre monde. Et même la mort, là, j'avais pas peur. Parce que c'était tellement vivant. Puis c'était se faire happer par quelque chose de tellement puissant, tellement plus puissant que tout ce qui était la terre, que c'était propre. Mais enfin, quand Mike est mort, alors là, j'ai pas fait la belle. Et pendant quelques temps, le bateau s'appelait Providence. Providence. Encore, c'est une histoire. Et là, c'est vrai que pendant des jours, j'étais complètement... Le retour a été terrible. Je pensais qu'on allait mourir à chaque instant. Tout d'un coup, j'ai senti l'hostilité de la mer et de le froid. Et puis, hop, c'est parti quand même, avec les semaines. Bon. Oui, je sais pas.
Est-ce qu'il y a des rituels particuliers lors d'un décès d'un marin ?
Eh bien, le rituel que je vois, c'est qu'on va... On fait son enterrement au bar. Parce que c'est la famille. Et Niképhoros, quand il est mort, ben, il était orthodoxe, donc le pope est venu, il y avait un pope à Tunis. Et ça a été très, très, très touchant. Pour John, c'était un curé. Et c'était extrêmement touchant, bah, chacun parlait, on amenait des choses à manger qu'on avait préparées nous-mêmes si on avait pu. Et puis tout le monde pleurait, on pleurait au début, on pleurait tous. Et puis on mettait la musique de plus en plus fort, on buvait de plus en plus. Puis la patronne payait la tournée générale de plus en plus. Puis à la fin, 3-4 heures du matin, c'était magnifique. On dansait sur le comptoir, on hurlait. Et puis au matin, on se disait... Oh ben, Linda serait contente, on lui a fait une belle mort, un bel enterrement, ou John, ou Niképhoros. C'est en Alaska, c'est la seule chose que j'ai vue, mais c'était puissant.
Peut-être on va prendre une dernière question, s'il y en a. Oui.
Qu'est-ce qui est chouette maintenant dans la vie, une fois qu'on a vécu toutes ces épreuves aussi intenses,
quand j'ai commencé à pêcher, il y a un gars qui m'a dit « You've been hooked, t'as été accroché, t'as été hameçonné par la pêche, par cette vie-là surtout, c'est par la vie. » Et il m'a dit « Tu vois, si t'arrêtes un jour, toute ta vie tu vas t'ennuyer. » Je dis « Oh, ça promet, je me réponds. » Bon, mais c'est vrai que les dernières années où je pêchais, parfois il y avait des moments où j'en avais ras-le-bol. Mais je pêchais parfois pour des patrons qui étaient quand même vraiment pénibles, qui étaient difficiles, qui étaient... Bon, si j'avais eu mon propre bateau, ça n'aurait pas été pareil. Mais c'est vrai que je n'ai jamais retrouvé cette exaltation. Elle le dit si bien, Anita Conti, dans un de ses livres. Alors, il ne faut pas le prendre mal parce qu'elle parle des femmes et des hommes, mais là, elle parle des Terre Nova. Elle dit, si les femmes vers lesquelles reviennent un équipage avaient une seule fois... brûlés de cette fièvre qui les fait se lever avant le jour pour courir. Oh, je la connais pas toute. Pour courir plutôt vers le jour pour vivre leur fièvre pour le vivre plus tôt. Elle saurait jusqu'où peut aller la puissance d'une passion dans une tête d'homme. Alors j'ai manqué le plus beau, mais cette phrase, elle veut tout dire. Elle veut dire la passion de l'exaltation. Et même pour ces Terre Nova qui avaient vraiment une vie épouvantable, qui étaient dans l'eau glacée, qui n'avaient pas de bons gants, qui n'avaient pas de... Il y a quelque chose de... Et j'ai parlé parfois avec d'autres pêcheurs en France, lorsque le livre est sorti en France, et qui me parlaient de cette même fièvre. Ouais. Alors oui, retrouver quoi ? Ben, C'est comme être à la retraite, j'imagine. Enfin, je dis pas, ça doit être bien d'être à la retraite des fois. Je veux dire, il y a une page qui est tournée. Alors peut-être qu'en écrivant les choses, on peut les revivre d'une autre manière. Peut-être en soignant. Que ce soit les animaux, que ce soit les... Après tout, j'ai tué tant de poissons. Il est peut-être temps maintenant que on se rachète pas, mais bon, que je passe à autre chose.
Vous avez un peu répondu à la fin, je pense, mais c'était pourquoi alors vous en transmettre cette histoire plutôt que ce qui est laissé dans le groupe. Moi, j'ai cru entendre que c'était pour les redire, mais c'est pour les...
Vous parlez de transmettre ?
De transmettre les histoires, enfin votre histoire, l'histoire des autres.
Oui, c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais absolument. Je voulais. C'est pour ça que je dis que c'est un malentendu. Qu'il y ait même une figure de femme sur le livre de poche. Je voulais parler des hommes, je voulais parler de cette condition difficile. Je voulais parler de ce désespoir, quand même, de cette solitude. Et la première année où j'ai péché, quand j'ai péché sur le rebelle, mon patron a... Quand on m'a enfin donné mon corps, donc j'écrivais la nuit ce qui arrivait parce que ça me semblait tellement. Je me disais, faut pas oublier. Et en même temps, ça me gardait réveillé parce qu'on est fatigué, il faut rester éveillé. Et un jour, le patron me voyait faire ça, le skipper, et il me dit, un jour, tu écriras un livre et tu parleras de nous, tu nous raconteras. Et j'étais heureuse quand le livre a été fait, qui tout d'un coup, il a été édité, j'ai vu ce livre et j'ai dit, bah, c'est fait. Mission accomplie. Mais je voudrais faire une trilogie, en fait, sur l'Alaska. Ça, ce serait vraiment que le début, ce serait l'apprentissage. Après, je voudrais faire comme l'âge adulte et parler justement de la douleur de ceux qui meurent, ceux qui passent par-dessus bord, ceux qui restent à terre, ceux qui... Et puis, je voudrais faire le troisième, qui est la loi des survivants. Et dans celui-là, aller de plus en plus dans l'âpre et dans le... ces gens que j'ai connus, qui sont des survivants et qui sont des... Et des survivantes aussi, des femmes aussi. Et, ouais. Et je pense que c'est la seule chose que je trouve intéressante, enfin qui m'intéresse dans écrire, c'est que ça serve comme à donner une voix. Enfin, des gens qui n'écrivent pas, quoi, raconter leur ce qu'ils vivent, leurs conditions. Allez, il faut faire attention, il faut le faire bien. On n'a pas le droit d'erreur.
Je voulais te poser la question du personnage de Lily par rapport à vous. Enfin, pourquoi ce personnage et quelle est la limite de la fiction dans le commun et de...
J'ai pas inventé grand-chose. En fait, je voulais faire un roman avec ce livre. Je l'avais construit différemment. J'avais construit sa tournée comme un... Et ça pouvait être un roman. Ça pouvait être vu comme un roman. Et puis mon éditeur, quand même... Enfin... Il a un peu modifié. On n'a pas modifié les mots ni quoi que ce soit, mais là, l'ordre. Et on entre tout de suite dans Lily, l'histoire de Lily. Il faudrait toujours être en route pour l'Alaska, mais il arrive à quoi bon. Et il me prévient qu'il allait avoir la réunion pour les représentants, donc le livre n'est encore pas sorti, loin de là. Et on allait me poser une question, est-ce que c'était autobiographique ? Il fallait que je réponde oui. J'ai dit, mais Olivier, mais je ne voulais pas que ce soit autobiographique, justement. Je voulais en faire un roman. Il dit, oui, mais il faut dire que c'est autobiographique. J'ai dit, bon, c'est mon premier roman, mon premier livre, je ne peux pas dire grand-chose. Et j'ai compris que ce qui les intéressait beaucoup, c'était ce côté autobiographique, parce que ça allait plaire. Voilà. Mais je pense qu'en tant que roman, ça aurait marché aussi. Vraiment. Mais peut-être ça serait moins vendu. Parce que les gens aujourd'hui aiment quand même bien, je pense, aiment beaucoup ce qui était vrai. C'est du vrai. Quand c'est du vrai, mais... Je ne sais pas. Et malgré tout, je connais beaucoup de femmes qui sont parties... Enfin, quelques femmes qui sont parties à Kodiak, qui sont parties pêcher. D'autres qui sont entrées dans la marine. Des hommes qui ont quitté leur boulot, dans l'administration, qui ne supportaient plus. Et puis qui sont aussi entrés dans la marine.
J'étais étonnée, juste pour un livre. C'est...
Tu racontes, il y en a qui sont même venus te rencontrer aussi avant de partir, qui sont venus discuter avec toi.
Oui. Un gars qui est venu me demander, il avait 26 ans. Il était fort, il était Issam qui vient chez moi, qui me dit, est-ce que je pourrais aller pêcher le crabe? Est-ce que vous croyez que je pourrais vraiment... Mais j'ai écouté, Issam, vous avez 26 ans, vous êtes fort, vous êtes... Bien sûr que vous allez y arriver. J'y suis bien arrivée. Vous croyez vraiment? J'ai dit, Issam, vous êtes comme moi quand je rêvais de... Il y avait cette même... Ce rêve fou d'aller... C'était beau. C'était des belles rencontres. Alors par contre, la première fois que je suis allée pêcher, je montre ça des fois, le crabe. Donc, une fois qu'on est rentré, bon, tous les gars étaient déjà partis au bar ou je ne sais où, et je finissais de nettoyer le pont, et je vois un potaille qui traîne. Un potaille, ce sont des liens dont on se sert pour amarrer attacher les casiers de crabe ensemble quand on les met en hauteur. Enfin, c'est très lourd, ça pèse 300 kilos, parfois plus. Et donc, je vais le remettre avec les autres. Tout d'un coup, je me dis, non, je le garde. C'est ce que ça veut dire. Alors, c'est ce que je vais faire avec. Alors, je suis rentrée le soir à mon bateau et j'ai fait une épissure. Donc, c'est un truc, un lien, c'est comme une note, ça ne m'a jamais quittée depuis. Et je me disais, ça veut dire quoi? Je me disais, ça veut dire que tout est possible. Qu'une petite femme comme moi qui arrive de son manosque, de sa campagne, puisse aller pêcher le crabe un jour, ça veut dire que tout est possible. Et lorsqu'ils m'ont emprisonné, j'espère que ça, on va passer l'heure. Lorsqu'ils m'ont emprisonné, alors j'ai vite, évidemment, je suis passée à la douche. Il y avait une gardienne, une surveillante qui a vu ça, qui m'a dit, il faut le couper absolument. J'ai dit, vous pouvez pas m'enlever ça. Si vous m'enlevez ça, vous m'enlevez tout. Elle était très gentille. Elle m'a dit, alors il faut dire que c'est religieux. Elle m'a dit que c'est religieux parce que c'est religieux, c'est pratiquement religieux. Donc j'ai gardé. Et depuis, je l'ai toujours.
Voilà. S'il n'y a pas de questions, c'est le moment où je peux aussi essayer de passer. Mais bon, je suis désolée, je ne sais pas si vous allez voir bien grand-chose parce qu'elles sont un peu... Ouais. Voilà. Ça, c'est les images de pêche au crabe, c'est ça?
Oui, encore... Elles sont pas de très bonne qualité parce que c'est il y a longtemps et c'est Rosias qui avait un petit appareil photo donc qui a pris ces quelques photos en noir et blanc et c'était mes seuls souvenirs. Là c'est quand on largue en vire le casier. Bon. Dernière frontière.
J'ai l'impression qu'on finit par une soirée diapositive.
Voilà celle-là. On avait rempli deux fois dans la journée la cale ce jour-là. Alors, ce sont mon rose. Donc les saumons roses, il y en a en quantité. C'est des bancs absolument énormes. Et d'ailleurs, ils comptabilisent, il y a les Fish and Game, tous les jours, qui ont des petits... à l'embouchure des rivières, ils comptabilisent les saumons qui remontent. Et quand il y en a... Tant qu'il n'y a pas un certain nombre qui est remonté, la pêche est fermée. Dès qu'ils sont passés... Elle ouvre, et quand ils sont, le nombre total est passé, alors là, ça reste ouvert. Donc, tout est contrôlé sans cesse. Donc, il n'y a pas de... Là, c'est un tout petit bateau, là, pas l'ancre.
C'est la ligne.
Voilà, je crois que... Ah, là, c'est... J'aime bien celle-là. C'est Egegik. Egegik, c'était une petite île dans la baie de Bristol sur laquelle j'avais pêché cette année-là avec des femmes indiennes, et on pêchait avec le filet depuis avec la marée. Donc avec le canot, on ramenait le filet, puis on le, enfin bref. Et on pêchait le saumon rouge. Et c'est donc des femmes aléoutiennes. Et donc autre, c'est là où on voit aussi, c'est à cet endroit qu'on voit aussi la photo, les coursors. Et c'était un village qui avait été complètement, complètement dévasté par l'alcool. Parce que, oui, le village était complètement... Et donc, on a fait un dry...
un village sec, c'est-à-dire que l'alcool était prohibé. Mais c'était... Et donc, les plages étaient comme ça. Toutes ces choses, tous les souvenirs de cette... On laissait tout aller, tout partait à volo. Il y avait un cimetière un peu plus loin. Ils avaient un ancien cimetière. Mais des années, puisque j'ai pêché avec le jeune Andrew, qui était aussi le frère là, de ces... qui était à l'août. Il me racontait quand il était enfant, là, son père était complètement sous, sa mère était saoule, tout le monde était sous dans le village. Il errait sans cesse des zombies. Et eux, les enfants s'amusaient beaucoup parce qu'il y avait le cimetière qui était en train, le terrain était en train de bouger. Donc petit à petit, il arrivait vers la mer. Et donc il y avait des os, des tibias qui tombaient. Et les enfants ramassaient les tibias, les crânes, ils se promenaient au village. Et les parents n'avaient même plus la notion, la capacité de leur dire « Mais c'est nos ancêtres, il faut c'est sacré. Et là, et c'est la plage, normalement, la falaise, elle est un peu plus loin. Enfin, où il y avait les os qui dépassaient. Mais là, ils étaient un peu... Enfin, je crois que le cimetière était, de toute façon, était parti à la mer. J'ai peu de photos parce que j'en prenais très peu. Des petits appareils jetables, rarement.
Moi, vu l'action qui est racontée à bord dans ton livre, je suis étonnée que tu aies même déjà réussi à prendre des photos et prendre des notes, quand même. Même si c'est peu de photos, c'est...
Les notes, je les ai prises. Les notes de la pêche, je les ai écrites bien avant. Hein. C'est pour ça qu'il y avait une partie du livre qui était écrite quand même quand l'éditeur m'a donné le contrat.
Mais je veux dire, je les ai écrites avant d'aller pêcher.
Non mais mes premières années de pêche. Mmh. J'avais quand même travaillé dur à me souvenir de tout. Je me dis autrement, j'oublierais cette première. Heureusement, autrement, j'aurais pas pu. Et peut-être pour ça aussi que c'est réaliste. C'est extrêmement réaliste, parce que c'était vraiment... J'étais encore dans le vif de la pêche, donc je me souvenais des détails. J'aurais pas pu me souvenir de tout comme ça. C'est trop loin.
Une dernière question, ouais.
Oui, je pense à ça maintenant. Vous étiez sur ce bateau avec des gens, finalement, qui n'avaient pas forcément le choix. C'était pas forcément le choix de vie de vivre ça. Pour vous, c'était plutôt un choix qui est venu au cours de vie, un choix philosophique presque de vivre cette aventure.
Pour eux aussi, quand même, ce sont des choix. Ce n'est pas comme dans les livres de « Entre terre et mer » de... comment il s'appelle, ces six beaux livres-là du...
Stephenson.
C'est magnifique, mais c'est une autre époque. Et là, ils sont vraiment obligés d'aller à la mer et d'aller puis d'en mourir. Non, là, ceux-là, ils l'avaient choisi. Il y avait... Bon, l'Alaska a été colonisé d'abord par les Russes au XVIIIe siècle. Est-ce pas déjà au XVIIIe siècle? Non, XIXe siècle, je ne sais plus. Racheté à la fin du XIXe par les États-Unis. Et à ce moment-là, au moment de la crise de 29, c'est à peu près à ce moment-là qu'ils se sont vraiment peuplés, l'Alaska. Et il y a les Norvégiens, donc les Danois, les Norvégiens, des peuples de pêcheurs aussi, il y en a beaucoup qui sont venus s'installer là-bas. Donc beaucoup, la plupart le font, oui, ils le font par choix, en fait. Autrement, ils font autre chose. Et certains arrivent de la Grande Prairie, certains arrivent aussi du fin fond des terres. Certains n'avaient jamais vu la mer. Et ils commencent à pêcher, puis ça les accroche.
Je crois que c'est... On va finir là-dessus.
Peut-être qu'il faut y aller.
C'est une bonne fin. Peut-être qu'il faut y aller. Non, je pense qu'on resterait très volontiers. Mais...
Peut-être comme vous voulez. C'est comme vous voulez.
Je vais juste aussi remercier avant de terminer encore Pierre et Mary qui nous ont permis ces micros et cet écran. Et toute l'équipe du bureau du Belluaire qui est assise là à peu près au premier rang. Pour avoir rendu cette rencontre possible. Et merci à toi, Catherine, pour nous avoir partagé tout ça avec beaucoup de générosité.
Ben merci à toi, merci à toutes et tous. J'ai l'impression qu'au début, j'étais tout en mêlée. Tout est parti. Tout est parti.